capital national et actifs étrangers nets dans les pays riches. Comme nous l'avons déjà noté dans les chapitres précédents, les énormes actifs étrangers détenus par les pays riches à la veille de la Première Guerre mondiale, en particulier par le Royaume-Uni et la France, ont totalement disparu à la suite des chocs de la période 1914-1945 et n'ont depuis lors jamais retrouvé des niveaux aussi élevés. De fait, si l'on examine les niveaux atteints par le capital national et le capital étranger net dans les pays riches au cours de la période 1970-2010, il est tentant de conclure que les actifs étrangers ont une importance limitée. Ils sont parfois légèrement positifs, parfois légèrement négatifs, suivant les pays et les années, mais ils sont généralement assez faibles par comparaison au capital national. Autrement dit, la forte hausse du capital national dans les pays riches reflète avant tout la progression du capital domestique dans les différents pays, et les actifs étrangers nets ne semblent jouer en première approximation qu'un rôle relativement mineur. Voir graphique 5.7. Une telle conclusion serait cependant exagérée. On observe en effet que le Japon et l'Allemagne ont accumulé des actifs étrangers nets tout à fait significatifs au cours des dernières décennies, et notamment pendant les années 2000. C'est en grande partie la conséquence mécanique de leurs excédents commerciaux. Au début des années 2010, les actifs étrangers nets détenus par le Japon atteignent environ 70% du revenu national nippon, et la position nette extérieure de l'Allemagne avoisine les 50% du revenu national allemand. Certes, cela demeure sensiblement plus faible que les actifs étrangers détenus à la veille de la Première Guerre mondiale par le Royaume-Uni, près de 2 années de revenu national, ou par la France, plus d'une année. Mais compte tenu de la rapidité de la trajectoire d'accumulation, il est naturel de se poser la question de la suite de l'évolution. Dans quelle mesure certains pays se retrouveront-ils possédés par d'autres pays au cours du XXIe siècle? Les positions extérieures, considérables observées à l'époque du colonialisme, sont-elles susceptibles d'être atteintes, voire dépassées? Pour traiter correctement cette question, il nous faudra faire rentrer dans l'analyse les pays pétroliers et les pays émergents, à commencer par la Chine, pour lesquels nous disposons de données historiques fort réduites, d'où l'importance limitée qui leur a été accordée jusqu'ici, mais de sources beaucoup plus satisfaisantes pour la période actuelle. Il faudra également prendre en compte l'inégalité des patrimoines au niveau individuel et à l'intérieur des pays, et non seulement entre pays. Nous reprendrons donc cette question de la dynamique de la répartition mondiale du capital dans la troisième partie de ce livre. À ce stade, notons simplement que la logique de la loi bêta égale S sur G peut mécaniquement conduire à de très forts déséquilibres internationaux en termes de position patrimoniale, comme l'illustre clairement le cas japonais. Pour un même niveau de développement, de légères différences de taux de croissance, en particulier démographique, ou de taux d'épargne, peuvent faire que certains pays se retrouvent avec un rapport capital-revenu potentiel beaucoup plus élevé que d'autres, auquel cas il est naturel de s'attendre à ce que les premiers investissent massivement dans les seconds, ce qui peut être porteur de tensions politiques importantes. Le cas japonais illustre également un second type de risque qui peut survenir lorsque le rapport capital-revenu d'équilibre bêta égale S sur G atteint un niveau très élevé. Si les résidents du pays en question ont une forte préférence pour les actifs domestiques, par exemple pour l'immobilier japonais, alors cela peut pousser les prix de ces actifs vers des niveaux inconnus jusqu'alors. De ce point de vue, il est intéressant de remarquer que le record japonais de 1990 a été récemment battu par l'Espagne, où le total des patrimoines privés nets a atteint 8 années de revenu national à la veille de la crise de 2007-2008, soit 1 année de plus que le Japon en 1990. La bulle espagnole a commencé à se dégonfler très rapidement à partir de 2010-2011, à l'image de la bulle japonaise au début des années 1990. Il est tout à fait possible que des bulles encore plus spectaculaires se forment à l'avenir, à mesure que le rapport capital-revenu potentiel bêta égale S sur G atteint de nouveaux sommets. On notera au passage l'intérêt de représenter ainsi l'évolution historique du rapport capital-revenu et d'exploiter de cette façon les comptes nationaux en stock et en flux. Cela peut potentiellement permettre de détecter à temps des excès évidents de valorisation et d'appliquer une politique prudentielle et financière adéquate, conduisant à tempérer l'enthousiasme spéculatif des institutions financières du pays concerné. Dans le cas de l'Espagne, tout le monde avait remarqué la très forte progression des indices immobiliers et boursiers dans les années 2000, mais si l'on n'a pas de point de référence précis, il est très difficile de déterminer à quel moment les valorisations sont véritablement devenues excessives. L'avantage du rapport capital-revenu est que cet indicateur offre un tel point de référence permettant de faire des comparaisons dans le temps et dans l'espace. Il faut également noter que des positions nettes, réduites, peuvent dissimuler d'énormes positions brutes. De fait, une caractéristique de la mondialisation financière actuelle est que chaque pays est en grande partie possédé par les autres pays. Ce qui conduit non seulement à obscurcir les perceptions sur la répartition mondiale des fortunes, mais également à une vulnérabilité importante des petits pays et une instabilité de la répartition mondiale des positions nettes. De façon générale, on a assisté depuis les années 1970-1980 à un puissant mouvement de financiarisation de l'économie et de la structure des patrimoines, dans le sens où la masse des actifs et passifs financiers détenus par les différents secteurs, ménages, sociétés, administrations, a progressé encore plus fortement que la valeur nette des patrimoines. Le total des actifs et passifs financiers ne dépassait pas 4-5 années de revenu national dans la plupart des pays au début des années 1970. Il est le plus souvent compris entre 10 et 15 années de revenu national au début des années 2010, en particulier aux États-Unis, au Japon, en Allemagne et en France, voire plus de 20 années au Royaume-Uni, ce qui constitue un record historique absolu. Cela reflète le développement sans précédent des participations croisées entre sociétés financières et non financières d'un même pays, et en particulier un gonflement considérable des bilans bancaires, sans commune mesure avec la croissance des fonds propres, et aussi des participations croisées entre pays. De ce point de vue, il est important de signaler que ce phénomène de participation croisée internationale est beaucoup plus massif dans les pays européens, à commencer par le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, où les actifs financiers détenus par les autres pays représentent entre un quart et la moitié du total des actifs financiers domestiques, ce qui est considérable. Que dans les économies de plus grande taille, comme les États-Unis et le Japon, où cette part ne dépasse guère un dixième. Cela accroît le sentiment de dépossession, notamment en Europe, parfois de façon excessive. On oublie vite que si les sociétés nationales et la dette publique sont en grande partie détenues par le reste du monde, on détient des actifs équivalents à l'étranger au travers de contrats d'assurance vie et de multiples produits financiers, mais en partie pour de bonnes raisons. De fait, cette structure de bilan introduit une vulnérabilité importante des petits pays, notamment européens, dans le sens où de petites erreurs de valorisation des actifs ou passifs financiers détenus par les uns et les autres peuvent induire d'énormes variations dans la position patrimoniale nette. On constate d'ailleurs que l'évolution de la position patrimoniale nette des différents pays est déterminée non seulement par l'accumulation des excédents, ou des déficits de la balance commerciale, mais également par les très fortes variations du rendement obtenu sur les actifs et passifs financiers du pays en question. Précisons également qu'une partie importante de ces positions internationales reflète davantage des flux financiers fictifs liés à des stratégies d'optimisation fiscale ou réglementaire, au travers de sociétés écrans détenues dans les pays offrant la fiscalité ou la réglementation la plus attractive, que les besoins de l'économie réelle. Par exemple, il est probable qu'une part significative du déficit commercial américain correspond simplement à des transferts fictifs à des filiales d'entreprises américaines localisées dans des territoires fiscalement plus cléments, qui sont ensuite rapatriés sous forme de profits réalisés à l'étranger, ce qui rétablit le niveau de la balance des paiements. On voit à quel point ces purs jeux d'écriture peuvent fausser l'analyse des phénomènes économiques les plus élémentaires. Nous reviendrons sur ces questions dans la troisième partie de ce livre quand nous examinerons l'importance prise par les paradis fiscaux dans la dynamique mondiale de la répartition des patrimoines. À quel niveau se situera le rapport capital-revenu mondial au XXIe siècle? La loi dynamique bêta égale S sur G permet également de réfléchir au niveau que pourrait atteindre le rapport capital-revenu au niveau mondial au XXIe siècle. Voyons tout d'abord ce que l'on peut dire sur le passé. Pour ce qui concerne l'Europe, ou tout du moins les principales économies d'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, nous avons des estimations fiables pour l'ensemble de la période 1870-2010. Pour ce qui concerne le Japon, nous ne disposons pas d'estimation complète du total des patrimoines privés ou du patrimoine national avant les années 1960-1970. Mais les données partielles dont nous disposons, en particulier les données successorales japonaises débutant en 1905, suggèrent de façon extrêmement claire que les patrimoines ont suivi au Japon le même type de courbe en U que celle observée en Europe et que le rapport capital-revenu se situe à des niveaux très élevés dans les années 1910-1930, de l'ordre de 600-700%, avant de chuter à tout juste 200-300% dans les années 1950-1960, et d'entamer par la suite la remontée spectaculaire vers des niveaux voisins de 600-700% dans les années 1990-2000 que nous avons étudiés plus haut. Pour les autres pays et continents, Asie, hors Japon, Afrique et Amérique du Sud, des estimations relativement complètes existent à partir des années 1990-2000 avec un rapport capital-revenu moyen de l'ordre de 4 années. Pour les années 1870-1990, il n'existe aucune estimation complète véritablement fiable, et nous avons simplement supposé que le même niveau global s'appliquait. Compte tenu du fait que ces pays représentent au total à peine plus d'un cinquième du PIB mondial tout au long de cette période, l'impact sur le rapport capital-revenu au niveau mondial est en tout état de cause relativement limité. Les résultats obtenus sont indiqués sur le graphique 5.8. Compte tenu du poids des pays riches dans le total, il n'est guère surprenant de constater que le rapport capital-revenu au niveau mondial a suivi le même type de courbe en U. Le rapport capital-revenu au niveau mondial semble actuellement s'approcher de 500%, soit approximativement le niveau atteint à la veille de la Première Guerre mondiale. La partie la plus intéressante concerne la suite de l'évolution. Nous avons ici utilisé les prévisions de croissance démographique et économique présentées dans le chapitre 2 et selon lesquelles le taux de croissance de la production mondiale pourrait progressivement passer de plus de 3% par an actuellement à tout juste 1,5% dans la seconde moitié du XXIe siècle. Nous avons également supposé un taux d'épargne se stabilisant autour de 10% à long terme. Dans ces conditions, en application de la loi dynamique bêta égale S sur G, le rapport capital-revenu au niveau mondial devrait fort logiquement continuer de croître et pourrait s'approcher de 700% au cours du XXIe siècle, soit approximativement le niveau observé en Europe à la Belle Époque et au XVIIIe et XIXe siècle. Autrement dit, la planète entière pourrait ressembler d'ici à 2100 à l'Europe de la Belle Époque, tout du moins du point de vue de l'intensité patrimoniale. Il va de soi qu'il ne s'agit que d'une possibilité parmi d'autres. Nous avons vu que les prévisions de croissance étaient extrêmement incertaines, et celles concernant le taux d'épargne le sont tout autant. Ces simulations n'en sont pas moins plausibles, et ont le mérite d'illustrer le rôle central du ralentissement de la croissance dans l'accumulation du capital. Le mystère de la valeur des terres. Par définition, la loi bêta égale S sur G ne concerne que les formes de capital qui peuvent être accumulées et ne prend pas en compte la valeur des ressources naturelles pures, et en particulier des terres pures, c'est-à-dire avant toute amélioration apportée par l'homme. Le fait que la loi bêta égale S sur G permette de rendre compte de la quasi-totalité des stocks de capital observés en 2010, entre 80% et 100% suivant les pays, laisse à penser que les terres pures ne représentent qu'une petite partie du capital national. Mais quelle est exactement cette valeur? Les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon parfaitement précise. Considérons tout d'abord le cas des terres agricoles dans les sociétés rurales traditionnelles. Il est très difficile de déterminer avec précision quelle part de cette valeur correspond aux multiples investissements et améliorations apportées au fil des siècles, notamment sous forme de défrichements, drainages, clôtures, aménagements divers, et quelle part correspond à la valeur pure des terres, telles qu'elles existaient avant leur exploitation par l'homme. Il semble acquis, toutefois, que les investissements et améliorations constituent la majeure partie. Au XVIIIe siècle, la valeur des terres agricoles atteint l'équivalent de 4 années de revenu national, en France comme au Royaume-Uni. D'après les estimations réalisées à l'époque, on peut estimer que les investissements et améliorations représentent au moins les 3/4 de cette valeur, et sans doute davantage. La valeur des terres pures représente au maximum 1 année de revenu national, et probablement moins d'une demi-année. Cette conclusion s'appuie notamment sur le fait que la valeur annuelle des divers travaux de défrichement, drainage, etc. représentait à elle seule des sommes très importantes, de l'ordre de 3-4% du revenu national. Or, avec une croissance relativement lente, inférieure à 1% par an, la valeur cumulée de tels investissements n'est pas loin de représenter la totalité de la valeur des terres agricoles, voire de la dépasser. Il est intéressant de noter que Thomas Paine, dans sa fameuse proposition de justice agraire, déposée en 1795 auprès des parlementaires français, parvenait également à la conclusion que la part non accumulée du patrimoine national, unimproved land, correspondait à environ 1/10 du patrimoine national, soit un peu plus d'une demi-année de revenu national. Il faut cependant insister sur le fait que de telles estimations sont inévitablement très approximatives. Quand le rythme de croissance annuelle est faible, de légères variations dans le taux d'investissement produisent d'énormes différences dans la valeur à long terme du rapport capital-revenu bêta égale S sur G. Le point important à retenir est que la plus grande partie du capital national dans les sociétés traditionnelles reposait déjà sur l'accumulation et l'investissement. Rien n'a véritablement changé, sauf peut-être le fait que la dépréciation du capital terrien était très réduite par comparaison au capital immobilier et professionnel moderne, qui doit beaucoup plus fréquemment être remplacé et réparé, ce qui contribue peut-être à donner l'impression d'un capital plus dynamique. Mais compte tenu des données très limitées et imprécises dont nous disposons au sujet de l'investissement dans les sociétés rurales traditionnelles, il est difficile d'aller beaucoup plus loin. En particulier, il paraît impossible de faire une comparaison précise avec la valeur des terres pures à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Le principal enjeu aujourd'hui concerne les terres urbaines. Les terres agricoles valent moins de 10% du revenu national en France comme au Royaume-Uni. Le problème est qu'il est tout aussi difficile d'identifier aujourd'hui la valeur des terres urbaines pures, indépendantes non seulement des bâtiments et constructions, mais également des infrastructures et aménagements qui les rendent attractives, que celles des terres agricoles pures au XVIIIe siècle. D'après nos estimations, les flux annuels d'investissement des dernières décennies permettent d'expliquer correctement la quasi-totalité de la valeur des patrimoines, en particulier immobiliers, de 2010. Autrement dit, la hausse du rapport capital-revenu ne s'explique pas à titre principal par l'augmentation de la valeur des terres urbaines pures, qui en première approximation semble relativement comparable à celle des terres agricoles pures au XVIIIe siècle, entre une demi-année et 1 année de revenu national. Les marges d'incertitude sont cependant substantielles. 2 points doivent par ailleurs être ajoutés. D'une part, le fait que la valeur totale de la capitalisation patrimoniale, en particulier immobilière, dans les pays riches, s'explique assez bien par l'accumulation des flux d'épargne et d'investissement, n'empêche évidemment pas l'existence de très fortes plus-values locales liées à de puissants effets d'agglomération dans certaines localisations particulières, notamment dans les grandes capitales. Cela n'aurait pas beaucoup de sens de prétendre expliquer l'augmentation de la valeur des immeubles sur les Champs-Élysées, ou plus généralement à Paris, uniquement par l'addition des flux d'investissement. Simplement, nos estimations suggèrent que ces très fortes plus-values foncières locales dans certaines localisations ont été en grande partie compensées par des moins-values foncières dans d'autres localisations devenues moins attractives, par exemple dans les villes de taille moyenne ou dans un certain nombre de quartiers désaffectés. D'autre part, Le fait que l'augmentation de la valeur des terres pures ne semble pas expliquer une part essentielle de la remontée historique du rapport capital-revenu dans les pays riches n'implique absolument pas qu'il en ira de même à l'avenir. D'un point de vue théorique, il n'existe aucune force qui garantisse une stabilité à long terme de la valeur des terres, et encore moins des ressources naturelles dans leur ensemble. Nous reprendrons l'examen de cette question lorsque nous analyserons la dynamique du patrimoine et des actifs étrangers détenus par les pays pétroliers.